Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec dans un tout petit instant le journal de Christophe Lamar, toute l'info décryptée par la rédaction d'Europe 1. Et puis à partir de 19h20, dans votre grand débat du Club des Idées, on prendra de la hauteur. Alors que l'espace est longtemps resté la chasse gardée des agences spatiales publiques, il est aujourd'hui le terrain de jeu des entreprises privées. La conquête de l'espace, enjeu colossal, mais à quel prix? Qui surveille l'espace? Peut-on tout y faire? Comment gérer ces milliers de déchets qui gravitent autour de la Terre? Des spécialistes répondront à toutes ces questions. Rendez-vous donc à partir de 19h20. Juste avant, nous accueillerons Éric-Emmanuel Schmitt qui nous livrera sa carte blanche. Il reviendra sur la proposition américaine de lever les brevets des vaccins sur le Covid. Et puis juste avant 20h, on se replongera dans les archives d'Europe 1. 7 mai 1995, victoire de Jacques Chirac à la présidentielle. Une victoire et un slogan devenu culte, souvenez-vous, mangez des pommes. Mais d'abord, on va faire un point météo avec vous, Anissa. Parce que c'est important, ce week-end s'annonce estival.
Bah en plus, c'est le premier week-end où on a le droit d'aller à plus de 10 km de la maison. Donc on va pouvoir en profiter et effectivement, nous allons avoir un avant-goût d'été avec des températures très douces qui vont passer la barre des 30 degrés. Je vous dirai tout à la fin du journal.
Merci beaucoup Anissa, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Il est 19h, merci à vous d'écouter Europe 1.
Je profite de la levée des 10 km pour pouvoir aller voir ma famille à Marseille.
Premier week-end sans limitation de distance puisque la règle des 10 km n'est plus de mise et ils sont nombreux à vouloir en profiter. Il y a du monde sur les quais de la gare ce soir.
Le procès de Nordal Lelandais, 5e jour d'audience et l'accusé qui maintient sa version des faits sur la mort d'Arthur Noyer. Un accident, dit-il.
Nouveau record de vaccination aujourd'hui, 617 000 injections contre le Covid, mais le gouvernement s'inquiète d'un possible trou d'air lié aux nombreux ponts et jours fériés.
La crise sanitaire et la levée des brevets pharmaceutiques, il en a été question aujourd'hui au sommet européen de Porto. Emmanuel Macron réfute l'idée d'une Europe à la remorque des États-Unis.
Quand un service secret déménage, ça fait du bruit. La DGSE quitte le boulevard Mortier à Paris, mais pour aller où et surtout dans quel but? L'œil de notre spécialiste des questions internationales, Didier François, dans ce journal. Et puis un derby du Nord avec énormément d'enjeux. Lens-Lille, 36e journée de Ligue 1 de football. Les Lensois rêvent d'Europe, les Lillois d'un nouveau titre de champion de France.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Cette fois, le 8 mai tombe un samedi, tant pis pour le week-end prolongé, mais ce n'est pas une raison pour ne pas profiter de l'aubaine. Depuis lundi, la règle des 10 km est révolue, de même que l'attestation de déplacement. Et on a voulu savoir si certains en profiteraient pour partir, ça irait loin. On a la réponse avec vous, Romain Houg. Vous êtes en direct de la gare de Lyon et il y a du monde.
Oui, et le parvis de la gare a retrouvé son effervescence habituelle. Il y a le bruit des valises à roulettes sur les pavés, les retardataires qui courent pour ne pas rater leur train, mais surtout tous ceux qui vont pouvoir à nouveau voyager, voir leurs amis ou leurs proches, comme Julie, 32 ans.
Là, je profite de la levée des 10 km pour pouvoir aller voir ma famille à Marseille.
Ça faisait longtemps ?
Ça faisait... en fait, je ne les ai pas vus quasiment depuis juillet, effectivement. Surtout, j'espère que ça va leur faire très plaisir.
À quelques mètres de là, on devine le sourire sous le masque d'Antoine, fraîchement trentenaire, et pour cause...
Je suis invité par mon copain pour partir en week-end surprise et je ne sais pas où je vais.
Une petite idée ou...
Aucune, du tout. Je pense vers le soleil, parce qu'il fait mauvais en ce moment, mais voilà. On a envie de retrouver ce qu'on faisait avant, passer des week-ends hors de Paris pour pouvoir... Juste être dans la nature et profiter un peu du beau temps, quoi.
Elle aussi va profiter du beau temps. Sophie attend son train pour Montélimar, heureuse.
Ça fait vraiment plaisir de pouvoir de nouveau se déplacer. On reprend goût et je pense même d'une manière un peu plus prononcée à ces plaisirs simples de la vie. On se rend compte que la liberté, c'est un truc sympa quand même.
Voilà, ils sont nombreux ce soir, Gare de Lyon, à prendre le départ après de longues semaines de restrictions avec comme un goût de liberté retrouvée.
Romain Houg en direct de la gare de Lyon à Paris, à Chambéry. 5 jours d'audience, procès de Nordal Lelandais et un accusé qui ne vacille toujours pas.
Il n'a pas voulu tuer le caporal Arthur Noyer. C'est ce qu'a expliqué Nordal Lelandais qui s'accroche à sa version des faits, Jean-Luc Boujon.
Oui, effectivement, Nordal Lelandais n'a pas craqué, n'a pas flanché durant les 3 heures d'interrogatoire. Il a confirmé sa version des faits. Je n'ai pas voulu la mort d'Arthur Noyer. J'ai juste répondu à ses coups. C'était un accident, a-t-il martelé. Même son avocat, maître Alain Jakubowicz, dans une sorte d'étrange inversion des rôles, lui a offert la possibilité de modifier ses déclarations, tutoyant son client. Il lui a dit « Si cette version n'est pas la bonne, c'est le moment, Nordal. C'est le moment de parler, de dire la vérité. Si tu penses que tu n'as pas tout dit, si la dispute avec Arthur avait un mobile sexuel, tu dois parler maintenant. » L'ancien maître chien a pris le temps avant de répondre, puis il a déclaré « Non, j'ai tout dit ce qui s'est passé, il n'y a aucun motif sexuel à notre altercation, il m'a frappé, j'ai répondu, je l'ai tué, c'était un accident, je n'ai rien à ajouter. » D'où la déception de la famille d'Arthur Noyer et de son avocat, maître Bernard Boulou.
J'ai cru à un moment qu'il allait peut-être dire la vérité ou un bout de vérité. Je pense qu'il a raté ce moment. Il risque de le regretter, puisque avec la somme de contradictions qu'il y a dans ce dossier de sa part, avec la somme d'évidence qu'il y a de l'autre côté, je pense que l'intime conviction des juges, eh bien, fera le reste. Et moi, je suis certain que le meurtre sera retenu, en tout cas.
Voilà, alors le procès reprendra lundi avec les expertises psychiatriques de Lelandais. Le verdict est attendu mercredi prochain.
Jean-Luc Beaujean qui suit pour Europe 1 ce procès à la cour d'assises de Savoie.
Et puis c'est tombé il y a quelques minutes, on s'en doutait, mais maintenant c'est une certitude. Éric Dupond-Moretti sera candidat pour La République En Marche dans les Hauts-de-France. Mais pas tête de liste, Louis de Dragnel, et ça vaut un petit peu plus qu'une nuance. Hein.
Oui, absolument, et donc c'est dans un entretien à paraître dans La Voix du Nord demain qu'il annonce cette candidature. Cela faisait plusieurs jours que l'information circulait, tout est accéléré en début de semaine avec l'Élysée qui souhaitait que l'officialisation de sa candidature se fasse très vite. Éric Dupond-Moretti participera donc à cette liste conduite par le secrétaire d'État à la réforme des retraites, Laurent Pietraszewski, et donc sera tête de liste dans le département du Pas-de-Calais avec un objectif: affaiblir la liste de Xavier Bertrand, donc celui qui défend les couleurs de la droite, et montrer que La République En Marche est très offensif contre le Rassemblement National.
Merci beaucoup. Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Une première judiciaire en France. Volkswagen est condamné dans l'affaire du Dieselgate.
La cour d'appel de Pau donne raison à un automobiliste qui poursuivait le constructeur pour avoir truqué ses moteurs afin de les rendre moins polluants qu'ils ne l'étaient en réalité. Volkswagen devra lui verser 4000 euros d'indemnité et rembourser les frais d'avocat. La marque envisage un pourvoi en cassation.
617 000 personnes vaccinées aujourd'hui. C'est un nouveau record. On rappelle qu'à partir de lundi, la campagne s'ouvrira aux plus de 50 ans. Et s'il reste des doses, à partir de mercredi, tous les adultes pourront réserver un créneau pour le lendemain.
Et le ministre de la Santé était dans un centre de vaccination à Clichy-sous-Bois, en région parisienne. Olivier Véran sait aussi que les dimanches et les jours fériés sont le talon d'Achille de cette campagne de vaccination, Victor Dolande.
Oui, il y a 5 à 6 fois moins d'injections réalisées les dimanches et les jours fériés par rapport aux autres jours. La semaine prochaine, le gouvernement se fixe un objectif de 2 millions de primo-injections pour atteindre le fameux seuil des 20 millions au 15 mai. Olivier Véran demande donc des efforts à tous les personnels dans les centres de vaccination.
Quand je dis mobilisation des centres sur tout le territoire national, je parle des week-ends bien sûr, mais je parle également des soirées, de manière à ce que les Français qui travaillent et qui sont de plus en plus jeunes à pouvoir se faire vacciner n'aient pas à poser un jour de congé pour aller se faire vacciner. Évidemment, ils ne seront pas soumis aux règles de couvre-feu quand c'est pour se rendre dans un centre de vaccination.
La plupart des centres seront donc ouverts en soirée et pour prêter main forte aux équipes, le ministre de la Santé lui-même enfilera sa blouse blanche de médecin mardi prochain pour réaliser des injections. Deuxième annonce, ou plutôt demande du ministre, avant le pont de l'Ascension, la semaine prochaine, Olivier Véran recommande aux Français d'aller se faire tester massivement pour ne pas prendre de risques avant de voir sa famille ou ses amis.
Victor Dolande, spécialiste des santé d'Europe 1, la crise sanitaire et la levée des brevets pharmaceutiques, il en a été question au sommet européen de Porto.
Vous savez que le président américain Joe Biden a créé la surprise en début de semaine en se prononçant pour la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Paris a dit oui, après avoir longtemps dit non. Jean-Rémy Baudot, aujourd'hui Emmanuel Macron en a donc profité pour préciser la position de la France sur cette question.
Oui, Emmanuel Macron n'a semble-t-il pas vraiment goûté à la polémique de ces derniers jours qui laisserait penser que les États-Unis sont généreux quand l'Europe serait à la traîne. Le président français a répété ici à Porto que selon lui, la question n'est pas tant celle de libérer des brevets mais la capacité réelle des usines à produire des vaccins. Pour monter de telles lignes, il faut 2 ans, martèle de concert le commissaire européen Thierry Breton. Pour Emmanuel Macron, le problème est donc avant tout celui de la circulation des vaccins au niveau mondial.
Aujourd'hui, les anglo-saxons bloquent beaucoup de ces ingrédients et des vaccins. Aujourd'hui, 100% des vaccins produits aux États-Unis d'Amérique vont pour le marché américain. En Europe, sur à peu près 110 millions de produits à date, nous avons exporté 45 et gardé 65. Nous sommes les plus généreux au monde aujourd'hui dans le camp des pays développés. Donc je pense qu'il faut aussi que l'Europe soit fière d'elle et sache avancer.
Emmanuel Macron qui a réitéré la position française, celle du don de vaccins. La France s'est engagée à donner 5% des doses de vaccins Covid qu'elle recevra. Elle en aura notamment expédié 500 000 d'ici à la fin juin pour des soignants en Afrique.
Jean-Rémy Baudot en direct du sommet européen de Porto.
Les agents de la DGSE vont quitter la fameuse piscine, leur quartier général du boulevard Mortier dans le nord de Paris. Ils vont aller s'installer dans une toute nouvelle caserne aux installations ultra modernes, paraît-il, en lisière du bois de Vincennes.
On en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors ce déménagement est prévu pour 2028, il a été décidé par le président de la République.
Oui, c'est d'ailleurs lui qui est venu l'annoncer en personne hier aux officiers de la centrale dans cette vieille caserne qui, effectivement, jouxte la piscine des Tourelles, d'où ce surnom popularisé par les divers romans et films d'espionnage. Et cet endroit est depuis, effectivement, l'installation du SDEC dans les locaux en 1945 à la Libération, le quartier général historique des services français de renseignement extérieur. Alors évidemment, il a été maintes fois modernisé avec l'érection d'une grande tour centrale dans les années 70. Plus récemment, en 1997, la jonction d'une seconde parcelle de l'autre côté du boulevard reliée à l'immeuble de la direction générale par un long souterrain doté d'escaliers mécaniques. Mais fondamentalement, ces lieux restent extrêmement contraints par l'architecture d'origine des bâtiments qui n'avaient pas été conçus pour abriter un grand service moderne capable d'utiliser tous les moyens actuels de recueil et d'exploitation du renseignement.
Oui, Didier, s'il déménage, c'est aussi parce qu'effectivement, le nombre d'agents secrets a beaucoup augmenté.
Ah bah, il a doublé en 30 ans. On était à 3500 officiers en 1991 et ils sont maintenant plus de 7000. Mais surtout, le travail de la DGSE s'est terriblement complexifié. Les missions, aujourd'hui, demandent systématiquement d'intégrer des capacités d'interception cyber, l'Internet, et puis les spécialistes des différentes directions de services, opérations, renseignements, techniques, qui doivent travailler ensemble dans une même salle. Et on voit donc se multiplier des bureaux un peu surpeuplés, avec des fils, des branchements électriques qui passent dans tous les sens. Alors ça marche, mais ça ne pouvait pas durer. L'idée a donc été présentée au président de la République et à la ministre de la Défense par le directeur général, Bernard Hermier, et c'est bien plus qu'un simple déménagement. C'est en fait l'idée de doter la DGSE d'un outil de commandement qui soit à la hauteur de ses ambitions, et puis surtout des menaces actuelles, hein, parce qu'entre le terrorisme, la montée en puissance de nouveaux États comme la Turquie, la Chine, l'Iran, la Russie, il faut vraiment mettre en place des structures puissantes, surtout très agiles, capables aussi de fournir des accès techniques à tous les autres agences, de ce qu'on appelle le premier cercle de la communauté du renseignement. Donc, vous voyez bien la DGSI ou au ministère de l'Intérieur, ou bien la direction du renseignement militaire, la DRSD ou le commandement cyber des armées. C'est ça l'objectif de Vincennes. Ce sera un site de 20 hectares, donc deux fois la taille de Mortier, surtout doté justement de ses capacités informatiques qui sont des capacités d'avenir.
L'œil de Didier François, toujours passionnant, comme si on y était. Tous les soirs dans ce journal de 19h sur Europe 1. Sur les marchés financiers, Christophe, le prix des matières premières continue de s'affoler.
Le cours du cuivre a crevé le plafond des 10 200 $ la tonne ce matin. C'est du jamais vu dans l'histoire. Même chose pour le minerai de fer, coté à 202,65 $. Le bois de construction s'est envolé de plus de 300% en un an. Des prix tirés par la faiblesse du dollar et la forte demande, notamment celle de la Chine. Et des économistes redoutent que ces hausses ne finissent par se traduire dans le prix des constructions, des équipements et finalement nourrir l'inflation.
Bien, le foot, et c'est le match qui peut tout faire basculer, c'est un derby et ça le rend donc encore plus excitant.
Bah vous admettrez que pour ouvrir une 36e journée de Ligue 1, on pouvait difficilement faire mieux. Le leader Lille se déplace à Lens, les Lillois visent le titre, mais les Lensois qui rêvent d'Europe feront tout pour les en empêcher, et les sans et or qui peuvent compter sur l'appui du public massé à l'extérieur du stade, Lionel Gougelot.
Oui, effectivement, ils sont plusieurs milliers de supporters lensois ici aux abords du stade Félix Bollaert pour encourager les joueurs sans et or à leur arrivée. Privés de tribune pour cause de huis clos, ces supporters donnent de la voix avant un derby hors norme avec un enjeu capital pour les deux formations. Et pour ces supporters, eh bien, l'équation elle est assez simple. Une victoire pour se rapprocher de la qualification européenne et tenter de barrer la route du titre aux leaders lillois.
L'important, c'est qu'on leur vole le titre.
Si on gagne contre eux, on leur met des bâtons dans les roues.
On est là, on va les casser maintenant. C'est tout.
On va en Europe, on va éliminer Lille du titre et ça sera fait. Point barre. Et allez, Lens.
Alors vous l'entendez, la rivalité Lens-Lille, ça n'est pas une légende. D'ailleurs, il n'y a pas que chez les supporters que la température est montée d'un cran cette semaine. L'attaquant lensois Gaël Kakuta, pourtant né à Lille, a même déclaré qu'il préférait voir le Paris Saint-Germain champion plutôt que le LOSC. L'entraîneur lillois Christophe Galtier a moyennement apprécié.
Je laisse les propos à Gaël, qui est lillois. Mais après, ce sont des phrases de derby. Dieu sait que j'en ai vécu. Ça fait partie de l'emballage d'un derby, du folklore du derby. Le plus important, c'est qu'il se passe dans un bon état d'esprit sur le terrain pour qu'il n'y ait aucun débordement à l'extérieur, que ce soit après le match ou bien après le match.
Ce soir, autour du stade, il y a des effectifs de police et de CRS renforcés, 200 personnes mobilisées. Et pour éviter tout débordement, la préfecture du Pas-de-Calais a interdit la présence ici de supporters lillois ou identifiés comme tels.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 à Lille, Lens-Lille, c'est à 21h et ce sera à suivre en fil rouge sur Europe 1. Marseille aussi peut encore espérer quelque chose l'année prochaine, disputer une Coupe d'Europe par exemple. Mais ce sera sans Florian Thauvin qui file au Mexique. L'attaquant vient de signer pour 5 ans avec les Tigres de Monterrey et il retrouvera un certain André-Pierre Gignac.
C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe. Anissa Adadli, hausse des températures plus soleil. On aime beaucoup ce cocktail pour ce week-end.
On aime bien ce programme. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un programme comme ça. Effectivement, nous aurons demain un week-end, un début de week-end estival parce que ça va durer jusqu'à dimanche. Alors attention, demain matin, le changement ne va pas être flagrant puisque nous aurons encore sur la Bretagne, la Normandie, le Cotentin et les Hauts-de-France une petite instabilité qui apporte des nuages, donc un ciel couvert sur toutes ces régions, du vent aussi sur les côtes de la Manche toute la journée et puis quelques petites averses. Au nord de la Loire, là nous avons un ciel couvert, alors ça va de Nantes jusqu'à Strasbourg en passant par la région parisienne, le ciel est gris le matin mais il va finir par se dégager dans l'après-midi et surtout le temps est sec. Pour la moitié sud, rien à signaler à part un grand soleil généreux dans un ciel totalement dégagé et puis de la chaleur. Alors demain matin, c'est assez stationnaire. Nous aurons 2 à 14 degrés avec un petit risque de gelée dans le Grand Est. Mais dans l'après-midi, la hausse des températures est vraiment forte par endroits avec 17 degrés à Boulogne-sur-Mer, 18 à Saint-Brieuc, 19 à Nice et à Metz, 21 degrés pour Bastia et Rennes, 22 à Paris, 24 pour Bourges, chez vous Isabelle et Marseille, 25 à Poitiers et Saint-Étienne, 27 degrés pour Montluçon, 29 à Biarritz et 30 degrés la maximale pour Bordeaux ou encore Vic-en-Bigorre dans le sud-ouest.
Là, ça sera l'été. Merci Anissa. On vous souhaite un excellent week-end estival. Dans un instant sur Europe 1, votre débat, l'espace, nouveau terrain de jeu des milliardaires. Mais d'abord, c'est la carte blanche du jour.
La Caisse d'épargne vous présente la carte blanche. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est Éric-Emmanuel Schmitt qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Éric-Emmanuel.
Bonsoir Isabelle.
Alors c'est un coup de cœur ce soir et il concerne Joe Biden.
Oui Isabelle, même si derrière mon cœur, il y a mes griffes, toutes prêtes. Car en m'enthousiasmant pour la dernière annonce de Joe Biden, je reste quand même critique.
Alors vous faites allusion à la déclaration de la Maison-Blanche, mercredi, dans laquelle le gouvernement américain a proposé une suspension temporaire de la propriété intellectuelle sur les vaccins contre le Covid-19.
Oui, c'est un cataclysme évidemment, car l'Inde et l'Afrique du Sud l'avaient demandé dès octobre 2020 à l'OMC et en vain. Les États-Unis, très protecteurs sur la propriété intellectuelle, provoquent donc la surprise et entraînent le positionnement équivalent de l'Union européenne. Concrètement, cela signifie que l'on exigerait des laboratoires la communication de leurs formules et de leur savoir-faire productif, ce qui permettrait à divers pays de fabriquer les vaccins.
Et il s'agirait donc d'une expropriation en quelque sorte ?
Oui, contre un dédommagement et non contre une licence, c'est-à-dire contre une indemnité, pas contre une redevance, la formule du vaccin et de sa fabrication deviendrait un bien commun de l'humanité. Et là, j'applaudis. Cette notion de bien commun de l'humanité, elle est récente. Elle a été élaborée en 1999 par des économistes américains, Isabel Grünberg, Inge Kohl et Mark Stern, dans un livre qui s'appelle « Les biens publics mondiaux ». Les biens publics mondiaux sont des biens qui profitent à tous les pays, tous les groupes de population et toutes les générations. Les Nations Unies se sont emparées du concept et ont dressé une classification. Les biens produits par les humains, c'est-à-dire les connaissances scientifiques ou techniques, les biens naturels, le climat, l'espace, la biodiversité, et les biens dépendants de la politique, la paix, l'éducation, la santé. Personnellement, je ne vois pas d'avenir à notre planète si elle ne se met pas à raisonner ainsi. Face au dérèglement climatique et aux pandémies, la Terre se réduit à un village qu'il faut gérer globalement.
Est-ce que vous trouvez surprenant que le président américain fasse une telle proposition ?
Joe Biden, il fait d'abord de l'anti-Trump. Trump, il était arc-bouté sur la propriété industrielle et le nationalisme. Cependant, je ne peux m'empêcher de noter que Joe Biden dit cela au moment où son pays est lui-même largement vacciné et n'a toujours pas exporté de doses. America first, toujours.
Ne croyez-vous pas que c'est une posture ?
Peut-être, voire sans doute. Car si cette suspension, certes provisoire, advenait, cela ne changerait pas grand-chose dans les mois qui viennent. Et cela pourrait nettement s'avérer dommageable dans les années suivantes. Je m'explique. Premièrement, le savoir fabriqué est bien plus difficile à reproduire que la formule elle-même. Donc il n'y aurait pas plus de doses avant des mois. Deuxièmement, cela pourrait handicaper les recherches à venir et leur financement. Certes, les laboratoires reçoivent des fonds publics pour chercher, mais ils sont aussi alimentés par les investisseurs qui prennent des risques et par au moins 20% du chiffre d'affaires des laboratoires qu'ils réinvestissent. Si on leur supprime les investisseurs et leurs profits, on paralyse le progrès.
Donc, si je vous comprends bien, Éric Emmanuel, en fait, vous n'êtes pas favorable à la proposition de Joe Biden.
Je ne suis pas favorable à sa proposition, mais favorable au fait qu'il propose. Il bouscule les cartes. Il met en avant une nouvelle manière de penser. Il menace. Bref, il fait de la politique, au sens noble du terme. Ce pragmatique ne veut pas l'aboutissement de sa proposition, mais il s'en sert pour bouger les lignes. D'abord parce qu'il rappelle aux multinationales qu'elles ne dirigent pas le monde, mais que ce sont les peuples et leurs représentants. Ensuite, il indique qu'il y a plus important que l'argent, la santé des gens. Enfin, qu'il n'y a de solution que collective, pas nationale et encore moins nationaliste. Jusqu'à maintenant, les pays riches tentent de s'en sortir en pratiquant l'individualisme. Or, c'est une crise globale. Joe Biden nous recadre en nous montrant que l'éthique et le pragmatisme s'accordent. Sauver tous les hommes, sans exception, sans apartheid économique ou sanitaire, sinon la pandémie continuera. Il saisit finalement ce moment où il y a un mal public mondial. En face, il y a un bien public mondial. Pour l'instant, ce bien public est un bien marchand. Reconsidérons-le et requalifions-le.
Eh bien, merci beaucoup. C'était la carte blanche ce soir sur Europe 1 d'Éric Emmanuel Schmitt. Merci beaucoup.
Merci.
C'était la carte blanche avec la Caisse d'épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, on va s'intéresser au terrain de jeu de Thomas Pesquet en ce moment. L'espace, enjeux et perspectives, ce sera le thème de notre grand débat tout de suite. 19h22, c'est l'heure de notre grand débat du Club des idées sur Europe 1. Et ce soir, on va prendre de la hauteur. On va s'intéresser à ce qu'il se passe tout là-haut, au-dessus de nos têtes. La conquête spatiale, après avoir été un enjeu principalement idéologique pendant toute la période de la guerre froide, est devenue aujourd'hui un enjeu scientifique, économique, stratégique, géopolitique, militaire également. Mais à quel prix ? On en parle ce soir avec mes invités. Philippe Baptiste, le nouveau président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Bonsoir.
Bonsoir.
Isabelle Sourbès-Verger est également à mes côtés, géographe, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des politiques spatiales et de l'occupation de l'espace. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions spatiales, auteur du Nouvel Âge spatial, de la guerre froide au New Space, aux éditions CNRS. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et merci beaucoup à tous les trois de m'accompagner ce soir pour ce débat qui s'annonce passionnant. Alors, il y a 15 jours, Thomas Pesquet rejoignait la Station spatiale internationale pour la deuxième fois à bord de la capsule SpaceX. La première fois, en 2016, il était parti à bord d'un vaisseau Soyouz, mais depuis, la société privée du milliardaire Elon Musk a brisé le monopole russe des envols vers l'ISS et redonné aux Américains et à la NASA la capacité d'accomplir cet exploit. Autre exploit, et celui-là, il remonte à hier, et là encore, c'est un succès que l'on doit à Elon Musk. La fusée Starship de SpaceX a réussi son atterrissage. Pour la première fois, les quatre précédents essais s'étaient soldés par des explosions.
We have ignition.
Les moteurs sont rallumés. La fusée s'approche du champ d'atterrissage. Et ça y est, c'est confirmé. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le vaisseau a atterri.
Alors, c'est pas nouveau. Ça fait un moment qu'on dit que les sociétés privées sont en train de mettre la main sur l'espace. Mais là, on a vraiment, vraiment l'impression que les choses s'accélèrent et que les prouesses techniques s'enchaînent, Philippe Baptiste. C'est un bel exploit, cet atterrissage.
C'est un très bel exploit. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a eu trois échecs avant. Et qu'on a fait le quatrième, et qu'au quatrième, ça a marché. Et ça, c'est quelque chose de... Voilà, ça, c'est une dynamique qu'on a un peu de mal à s'approprier en Europe, parce qu'on aime bien, nous, faire des programmes qui réussissent dès la première fois.
Oui.
Et donc, cette capacité à essayer, à tester, à jouer, à prendre un échec et à rebondir derrière, ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est, dont on doit aussi s'inspirer, en dehors, de, évidemment, de tout ce qu'on sait faire très bien aussi en Europe.
Parce que vous voulez dire, c'est que nous, quand on rate, après, on arrête ?
Non, c'est qu'on rate pas, on prévoit longtemps avant, et c'est parfait, et c'est comme sur des roulettes. Non, c'est des approches qui sont un petit peu différentes, mais c'est des approches qui viennent un peu bouleverser le monde du spatial. Et c'est tout l'intérêt de ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on a des nouveaux acteurs qui arrivent, et qui arrivent avec des idées qui viennent du monde du numérique, du monde de l'industrie, parfois low cost. Et ils arrivent et ils bouleversent un petit peu nos codes et nos façons de travailler. Et je pense que c'est une opportunité qui est, évidemment, ça change un peu le paysage, donc ça nous secoue tous un petit peu, mais c'est aussi une opportunité absolument passionnante et qui ouvre aussi le terrain de jeu pour une économie du spatial qui est en train juste d'exploser dans le monde aujourd'hui.
Alors, ces nouveaux acteurs, effectivement, il y a Elon Musk, on en a parlé, puis il y a Jeff Bezos, la société de tourisme spatial Blue Origin du fondateur d'Amazon prévoit d'ailleurs d'envoyer pour la première fois des humains dans l'espace en juillet. Si vous êtes intéressé, il paraît qu'il y a un siège qui est mis aux enchères. Deux milliardaires qui se livrent une bataille sans merci pour devenir le prochain empereur de l'espace. Il faut s'en réjouir ou il faut s'en inquiéter, Xavier Pascaux ?
Bon ben je crois ni l'un ni l'autre. En fait, la réalité, c'est que l'argent qui circule dans le domaine spatial reste largement de l'argent public. En fait, la NASA, en l'occurrence dans le cas américain, est le bailleur de fonds principal de l'activité spatiale. Simplement, effectivement, comme le disait Philippe Baptiste, les relations, on va dire, entre l'agence spatiale et ses industriels d'un nouveau genre se sont reconstruites, sont construites différemment de celles qui préexistaient traditionnellement depuis les années de guerre froide, avec une NASA qui concevait complètement les systèmes, qui demandait aux industriels de réaliser selon leurs plans et qui opérait les systèmes. Désormais, c'est vrai qu'on a une libéralisation, on va dire, du spatial par le fait que la NASA achète du service à des industriels. C'est-à-dire que les industriels ont un peu plus de marge finalement pour construire leur propre fusée, pour éventuellement utiliser leur système. La NASA regarde du point de vue sécurité si tout ça marche. Mais fondamentalement, la relation s'est un peu, on va dire, transformée. Et la nouveauté, c'est que ces industriels ont eux-mêmes leurs plans pour éventuellement aller sur la Lune, aller sur Mars. Ça, c'est un peu nouveau. Donc, ça crée. Voilà, ce sont des acteurs d'un nouveau genre. Mais il faut se rappeler qu'on n'est pas dans une, selon moi, dans une privatisation du spatial. On est quand même dans un spatial qui reste largement financé par les dépenses, publiques.
Alors, justement, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, Xavier Pascaux. Je voudrais qu'on écoute ce que Thomas Pesquet dit d'Elon Musk et de toutes ses avancées. Écoutez.
C'est vrai qu'il a un peu un temps d'avance sur tout le monde. Il vit un petit peu dans le futur quand même. Ce que SpaceX en ce moment, avec Starship, avec Starlink, avec tous leurs projets un peu futuristes, ça va largement plus loin que ce que la NASA leur avait demandé. Mais on voit bien qu'ils ont quand même un coup d'avance et puis ils pensent au futur. Ouais. Et ça, clairement, ça vient d'en haut. C'est sa vision à lui et c'est lui qui dirige l'entreprise jusqu'un peu dans les moindres détails. Hein.
Ça va largement plus loin que ce que la NASA lui avait demandé, dit Thomas Pesquet à propos d'Elon Musk. Il a un temps d'avance, il va dans le futur. Isabelle Sourbès-Verger, à part la notoriété, qu'est-ce qu'ils vont chercher ces milliardaires dans l'espace ?
À part la notoriété, c'est pas rien.
C'est déjà beaucoup.
Je pense que c'est déjà beaucoup. Je pense qu'il y a quand même ce mythe de l'entrepreneur qui existe aux États-Unis déjà. C'est beau de faire fortune dans l'Internet, mais finalement, ouvrir une colonie sur Mars, ça renvoie à un imaginaire de science-fiction, éventuellement à du transhumanisme. Enfin, je pense qu'il y a derrière tout un arrière-plan qui est très fort, que là encore, on a peut-être beaucoup moins en Europe aussi. Ça, c'est peut-être quelque chose de très particulier aux États-Unis. Et moi, je pense qu'on a quelque part une difficulté, c'est-à-dire que les États-Unis sont une hyperpuissance spatiale absolument confirmée, mais relativement atypique finalement. Et nous, en Europe, on est quand même quelque part proche de ce modèle. Mais si vous regardez la Russie, si vous regardez la Chine, si vous regardez l'Inde, qui sont quand même les autres puissances spatiales, cet écosystème américain, il n'est pas transposable. Et vous n'imaginez pas, bah, tout simplement, en Chine, déjà, on l'a bien vu avec Ma, quand vous prenez un petit peu trop d'autonomie par rapport au pouvoir politique et au pouvoir central, vous rentrez vite dans le rang. De la même façon, en Russie, cette idée d'entrepreneur, c'est absolument pas le Far West et le, pour reprendre votre image et les traîneaux qui vont ouvrir l'Ouest américain. Ça existe, ces chariots, mais ça n'existe pas du tout en Russie. En Russie, cette idée qu'on peut s'enrichir en faisant du spatial, ça ne marche toujours pas. Donc, je pense que c'est un modèle à part. Et à ce titre-là, il est à la fois fascinant et en même temps, il est bon peut-être de réfléchir à la façon dont nous, on doit se situer dans la mesure où nous vivons un écosystème qui est quand même différent. Et peut-être faire de la recherche de niche, ou ça me paraît très intéressant.
On va poursuivre ce débat dans un tout petit instant, c'est promis sur Europe 1. Débat passionnant, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. On passera notamment un coup de fil en Suisse au patron de la société ClearSpace qui est chargé de nettoyer l'espace et on verra qu'il y a du boulot. À tout de suite. Suite de votre débat du Club des idées sur Europe 1 consacré à la course à l'espace, le temps où cette course aux étoiles se jouait principalement entre superpuissances semble aujourd'hui lointain. Une poignée de sociétés privées se livre désormais à une guerre économique, technologique et même militaire. On le verra au-dessus de nos têtes. Avec moi dans ce studio, toujours Philippe Baptiste, le président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Isabelle Sourbès-Verger, géographe, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des politiques spatiales et de l'occupation de l'espace. Et Xavier Pascaux, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste des questions spatiales. Alors, je disais tout à l'heure que l'espace, c'est un peu le nouveau Far West. Vous n'aimez pas cette expression, Isabelle Sourbès-Verger. En tout cas, on a vu qu'avec les GAFAM, on se livre quand même à une course effrénée pour en faire un nouvel Eldorado. Cette conquête de l'espace, ça n'est pas juste une lubie de milliardaires américains. Il y a derrière un vrai business, hein, Philippe Baptiste.
Ah bah, si je devais donner un chiffre, Merrill Lynch prévoit qu'en 2040, le business du spatial mondial, c'est 3 000 milliards de dollars par an. C'est-à-dire à peu près le PIB d'un très grand pays comme le nôtre. Et alors, c'est un enjeu absolument considérable. Et c'est pour ça aussi qu'on voit tous les nouveaux acteurs qui sont en train de travailler sur les questions du spatial. Ils ne travaillent pas sur tous les aspects du spatial, mais il y a un certain nombre de sujets qui sont effectivement très étudiés et très investi par de nouvelles puissances économiques.
Parce qu'effectivement, il y a plusieurs sujets dans le spatial. Il y a les satellites qui visent à développer l'Internet à haut débit, nos communications, etc., les objets connectés, et puis ensuite des vols habités dans l'espace. C'est deux choses très différentes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de milliardaires chinois ou des milliardaires du pays du Golfe ou même français qui lorgnent sur l'espace, Xavier Pacaud ?
Alors, précisément, c'est lié, en fait, je dirais, à l'élan initial de l'activité spatiale aux États-Unis. Quand on regarde, nous, en tant qu'observatoire du spatial, on fait vraiment la différence, depuis des années, entre la planète américaine, j'allais dire, et la planète reste du monde. Même si aujourd'hui, ça s'estompe un petit peu. Mais aujourd'hui, les États-Unis, ça reste l'essentiel de la dépense publique dans le monde. Et donc, évidemment, le terrain est favorable pour que s'y développe une activité industrielle bien supérieure et que s'y développent aussi des perspectives peut-être d'industrialisation du spatial, de penser l'infrastructure spatiale, ce qui est assez nouveau aujourd'hui. Dans d'autres pays, on n'en est pas là et donc on n'a pas la même approche ni la même perspective. Et là, on voit bien le contraste, effectivement. Aujourd'hui, tout ce dont on parle, ça se passe d'abord aux États-Unis. Le fameux New Space, ça reste un phénomène, j'allais dire américain, très californien d'ailleurs, et très en lien avec cette nouvelle économie de l'information aussi qui s'est développée justement là-bas.
Et alors, qui bénéficie de toutes ces avancées ? Ce sont plutôt les États, les particuliers, les entreprises, Isabelle Sourbès-Verger ?
Ça dépend. Dans les différents registres que vous citiez, il y a aussi des registres comme la science. On voit bien avec l'exploration martienne, c'est un pan quand même très important de l'activité spatiale. Il y a aussi une dimension militaire. Il y a la dimension globale d'application dont bénéficient toutes les sociétés et d'une certaine façon dans le monde entier. Puisque l'avantage du satellite, c'est qu'il vous permet de gommer les besoins d'infrastructures terrestres. Et donc, à l'origine, dans les projets d'Elon Musk, vous aviez cette idée de distribuer de l'Internet partout à la Terre entière, avec des délais très courts. Alors après, est-ce que des sociétés africaines ou des sociétés asiatiques pauvres ont vraiment les moyens de rentabiliser ce système ? C'est pas certain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le service existe. Et une fois que le satellite est là et qu'il crache en quelque sorte de la donnée, vous pouvez en servir et la récupérer. De la même façon, l'observation de la Terre dans tous les pays en voie de développement, c'est un moyen de faire de l'aménagement du territoire. Ça va du cadastre à la prévision des catastrophes, etc. etc. Donc ça, et je ne parle pas de la navigation, localisation, voilà. Sur toutes ces applications, par exemple, il n'y a pas que les États-Unis. L'Europe est extrêmement bien placée. L'Europe est une grande puissance spatiale, certainement après les États-Unis, et elle viendrait dans ces registres-là. Vous avez la science. Vous avez donc l'exploration et vous avez ce, je dirais, volet très particulier dont on parle beaucoup en ce moment, mais qui reste quand même très spécifique, qui est celui du vol habité.
D'accord. Alors justement, est-ce que l'Europe a elle aussi les moyens de développer une capsule habitée, par exemple, Philippe Baptiste ?
Alors, je pense qu'on pourrait, hein, technologiquement, nous maîtriserions ce choix. Maintenant, après, il y a aussi une logique d'opportunité. Savoir en gros pourquoi on veut faire du vol habité. Alors aujourd'hui, on fait du vol habité dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, pour faire de la science, c'est-à-dire pour faire un certain nombre de manips qu'on n'est pas capable de faire sur Terre. On peut avoir besoin d'une capsule habitée si on veut effectivement se projeter aussi bien sur la Lune que sur Mars demain. Moi, ma question, et c'est aussi un peu ma part de naïveté, c'est est-ce qu'il faut que chaque grand pays et chaque grande puissance spatiale développe son propre programme pour aller sur Mars ? Peut-être que c'est le moment où on peut justement travailler ensemble et se projeter collectivement pour avoir un projet commun. C'est ma part de naïveté. Je pense qu'on n'a pas quitté tout à fait la dimension très idéologique de l'espace qu'il y avait initialement. Il faut se rappeler la guerre que se sont menées les Russes et les Américains sur cette question. Ce ne sont plus exactement aujourd'hui les mêmes acteurs, mais je pense que la rivalité aujourd'hui, elle est toujours là. Et si les États-Unis, comme la Chine, investissent aujourd'hui des sommes colossales tous les ans, c'est un mélange d'opportunités économiques, mais aussi une rivalité de puissance. On parle de 60 milliards d'euros par an qui sont aujourd'hui investis par les États-Unis, à peu près autant en Chine. l'Europe est nettement en retrait, mais même en retrait, elle est aujourd'hui excellente sur un certain nombre de champs. Je voudrais juste insister, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la question de l'observation de la Terre. C'est un enjeu qui est absolument mais majeur pour notre planète. Si on n'a pas les capacités d'observation de la Terre, par exemple, pour être capable de nourrir les modèles qui aujourd'hui travaillent sur le climat, sur la météo, de nourrir les modèles qui modélisent aujourd'hui nos émissions de CO2, et bien ça veut dire que derrière, on n'est pas capable d'ausculter la Terre, on n'est pas capable de comprendre comment l'empreinte de l'homme aujourd'hui perturbe le climat, par exemple. Donc vraiment, l'observation spatiale, c'est non seulement évidemment la défense du business, des télécoms, mais c'est aussi ces questions-là qui impactent aujourd'hui directement la vie de tous les hommes sur la Terre.
Alors, vous parliez de guerre froide hein, tout à l'heure. De quoi parle-t-on concrètement aujourd'hui quand on parle de guerre des étoiles, Xavier Pascaud ? Il n'y a pas d'armes au sens propre positionnées au-dessus de nos têtes, évidemment. Quoi, ce sont des satellites de communication, des radars qui sont placés en orbite. C'est tout ça, les outils militaires, finalement ?
Heureusement, il n'y a pas encore de guerre des étoiles et on espère qu'il n'y en aura pas. Alors, il y a des programmes militaires, mais ça, c'est ancien. Hein, depuis les débuts, en fait, de l'ère spatiale, on a utilisé l'espace, disons, à des fins militaires. Ce qui ne voulait pas dire qu'on mettait des armes dans l'espace, mais on utilisait des satellites qui surveillaient, par exemple, les missiles balistiques au moment les plus chauds de la guerre froide, j'allais dire. Aujourd'hui, c'est vrai que les forces armées modernes reposent de plus en plus sur l'utilisation des moyens spatiaux, y compris la France, par exemple.
On a beaucoup investi dans cette guerre de l'espace, entre guillemets, en France, puisque maintenant, notre ministère, c'est le ministère des armées et de l'espace.
Alors oui, en fait, on s'est rendu compte que, d'une part, on dépendait de plus en plus de ces moyens, en particulier pour nos opérations extérieures. Il faudrait que la France est singulière dans le paysage européen, par son activité militaire extérieure notamment. Et là, par exemple, le pilotage de drones ou la prise d'images pour les militaires, etc., sur leurs théâtres éloignés, ça nécessite l'emploi de satellites. Donc, on en dépend de plus en plus. Ça donne à la France le fait de posséder l'outil spatial, donne à la France un statut politique particulier. Et en même temps, on voit que l'espace est un environnement de moins en moins codifié, de plus en plus incertain, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'objets, des satellites. Et donc, il y a une sorte d'effet de cisaillement qui fait que, effectivement, au niveau du ministère des Armées en France, on a eu le sentiment qu'il fallait moderniser l'organisation, on va dire. Et effectivement, il y a aujourd'hui ce commandement de l'espace qui existe.
Donc en fait, c'est surtout de l'espionnage, de la surveillance de nos ennemis ou de nos amis. Nos ennemis, entre guillemets, dans l'espace, ce sont les mêmes que nos ennemis sur Terre, Isabelle Sourbès-Verger ?
Je dirais que pour les Américains, c'est clairement les mêmes que sur Terre. C'est-à-dire que leurs premiers ennemis sont les Chinois et les Russes, même si en termes de capacité militaire potentiellement agressive, c'est-à-dire vraiment cette fois-ci des armes dans l'espace, les Russes sont sans doute encore beaucoup plus en avance que les Chinois, ne serait-ce que parce qu'ils ont l'héritage de toutes les recherches. Mais il n'y a pas véritablement, enfin officiellement, il n'y a pas d'armes dans l'espace. Et chaque fois qu'il y a eu des tirs anti-satellites ou des manœuvres anti-satellites, ça s'est fait entre son propre satellite et sa propre arme, si vous voulez. De manière, c'est du test et il n'y a pas de menace directe.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un satellite militaire russe tire sur un satellite militaire américain.
D'ailleurs, tirer, c'est compliqué dans l'espace, parce que tout est compliqué comme guerre dans l'espace. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que quand même, la plus grande puissance spatiale militaire américaine et la seule qui parle de développer potentiellement des armes, même si c'est pour se défendre, ce sont les États-Unis. Et quand vous regardez les budgets, le Pentagone, c'est 25 milliards, Xavier corrigera mon chiffre à quelque chose près, mais on est autour de 25 milliards de dollars. Et quand vous comparez ça à un budget spatial, la totalité du budget spatial européen, mettons qu'on soit tout confondu, l'ESA, l'Union européenne, les pays nationaux, etc., on est peut-être à 12 ou 13 milliards. Pour de tout, du civil et du militaire. Rien que du militaire américain, 25 milliards. Donc là, vous vous rendez bien compte qu'ils ont une avance. Mais on comprend très bien. Je veux dire, l'espace est un élément de la sécurité nationale, aussi bien économique que militaire, que stratégique. Et donc, d'une certaine façon, quand vous êtes américain, vous vous sentez investi de ce contrôle de l'espace. Ce qui pose évidemment des tas de problèmes à des Russes, à des Chinois, potentiellement à des Indiens. Donc c'est plutôt cette espèce de projection d'une vision d'un leadership et d'une vision des États-Unis gendarmes du monde.
Oui, ben on a l'impression qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut dans l'espace. Est-ce qu'il y a des lois qui gèrent l'espace, Philippe Baptiste ?
Alors, il y a des pays qui se sont dotés d'un certain nombre de lois, en particulier, par exemple, sur les débris spatiaux, sur la manière dont on gère justement ces choses-là. La France est très, très en avance.
Mais il n'y a pas un gendarme de l'espace.
Il n'y a pas un gendarme de l'espace. Il y a un certain nombre de traités. Il y a des traités, mais qui ont la force de traiter. Moi, si je reviens quelques instants sur la question de la militarisation de l'espace, on a quand même aujourd'hui plusieurs exemples de pays qui ont détruit leurs propres satellites avec des missiles tirés à partir du sol. c'est clairement une démonstration de puissance.
Pourquoi ils ont fait ça?
Ben, pour simplement illustrer le fait qu'ils étaient en capacité de le faire.
D'accord.
Ce qui d'ailleurs génère immédiatement un nombre de débris. Enfin, c'est très très irresponsable, hein, parce que je veux dire, ça veut dire que on génère immédiatement un nombre de débris sur l'orbite en question qui est absolument absolument considérable. Et ces trois tirs sont des sources de pollution aujourd'hui.
On va en parler justement. Vous m'amenez à ce sujet qui est très intéressant, parce qu'après tout ce qu'on vient d'entendre, on se demande si l'espace ne va pas devenir une poubelle, en tout cas très embouteillée, le risque qu'il devienne une poubelle. Je voudrais qu'on écoute ensemble ce qu'en dit Thomas Pesquet.
Sur les débris spatiaux, tout le monde a en tête l'image de la Terre entourée d'un nuage de points blancs. Mais pour la nécessité de la représentation, en fait, il faut bien voir que sur cette image-là, chaque point blanc, c'est à peu près la taille d'un département par rapport à l'échelle de la planète qui est derrière. Donc on a l'impression, quelque part, qu'il y a un nuage de débris qu'on ne peut pas passer autour, qu'on est obligé de slalomer comme dans Star Wars. C'est quand même pas le cas. On n'en est pas au point où les activités humaines sont impossibles en orbite. Mais ceci étant, c'est un problème dont il faut se préoccuper.
Thomas Pesquet qui nous dit quand même que, bon, c'est pas encore Star Wars, mais qu'il y a quand même du monde là-haut. Ça doit nous inquiéter, Xavier Pascaut ?
Oui, aujourd'hui, on regarde attentivement. Le problème des débris, c'est qu'ils sont générés sur les orbites les plus utiles en général. Puisque par définition, eh bien, il y a des orbites qui se prêtent particulièrement à l'observation de la Terre, très stable, à 800 km par exemple, ou d'autres orbites un peu plus élevées. Le problème de l'orbite géostationnaire pour les télécommunications, le problème des débris ne se pose pas de la même façon, mais on voit bien que, évidemment, on génère des débris là où on se trouve. Et si on s'y trouve, c'est parce que c'est très utile de s'y trouver. Donc, on se tire un peu dans le pied à chaque fois qu'on a une action qui est un peu polluante, si vous voulez. Et c'est ça la difficulté de l'espace, c'est que tout le monde est en interdépendance. En réalité, le milieu spatial est tel que dès que quelqu'un commet quelque chose qui est irresponsable, tout le monde en paye le prix, y compris celui qui l'a commis d'ailleurs. Donc c'est aussi une façon de s'autoréguler, mais ça reste très problématique. Et d'une certaine manière, l'accroissement de l'activité industrielle dans l'espace va nécessairement s'accompagner d'une plus grande pollution. Donc il va falloir s'armer de moyens pour à la fois mieux détecter tout ça, et puis s'armer de forums, d'institutions qui permettront de gérer ça de manière globale. Et ça, c'est
alors,
pas le plus simple.
Justement, l'Agence spatiale européenne a signé pour la première fois un contrat avec une start-up suisse. Elle lui a demandé de mener une mission de nettoyage de l'espace. Le fondateur et président de cette entreprise, ClearSpace, est en ligne en direct avec nous depuis la Suisse. Bonsoir Luc Piguet.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous. 86 millions d'euros, je crois que c'est la somme déboursée par l'Agence spatiale européenne pour nettoyer l'espace. Et elle a donc fait appel à vous. C'est une mission colossale. Vous êtes donc le premier éboueur du ciel. Expliquez-nous, parce que c'est très abstrait pour nous. Comment vous allez procéder ?
Donc, on développe en fait une plateforme capable de capturer et désorbiter un satellite ou un objet en orbite non coopératif. C'est-à-dire que quand on va faire la capture de l'objet, il n'a pas été préparé pour être collecté en orbite. Dans le cadre de cette mission, on a choisi un objet qui est relativement simple, qui dérisque la mission. C'est une partie d'un lanceur Vega qui s'appelle le Vespa Upper Part. C'est donc un cône qui fait à peu près 2 mètres de diamètre et 1 mètre 80 de haut. Donc c'est l'Agence spatiale européenne en a deux en orbite. Et on en a choisi un et on a fait une proposition de mission pour aller capturer cet objet, le ralentir, dégrader son orbite, le faire rentrer dans l'atmosphère terrestre où il va se consumer.
Donc j'imagine que c'est très compliqué d'aller attraper un objet comme ça parce que il y a toute une technique à développer. Vous devez, entre guillemets, être au même endroit que lui, lui donner une sorte de rendez-vous pour ensuite pouvoir l'attraper, le chasser, le cibler.
Oui, alors c'est déjà une mission plus complexe que d'autres missions spatiales parce qu'il faut un rendez-vous, il faut effectivement qu'on puisse rejoindre l'orbite de l'objet qu'on va chercher, qui orbite à 28 000 km/h. Donc
En comparaison, une balle de fusil, c'est 1000 km/h. Hein, donc 28 000 km/h, c'est énorme, effectivement, oui.
Voilà, c'est des vitesses énormes. Donc, ça demande une injection précise. On doit savoir où est-ce qu'on est placé en orbite et puis avoir toute une stratégie de navigation pour pouvoir finalement rejoindre l'objet en orbite. Après ça, il y a toute une difficulté qui est l'approche. Il faut s'approcher en suivant des orbites sûres pour éviter le risque d'une collision avec l'objet. Et finalement, la dernière approche, le dernier challenge, c'est la capture elle-même. Donc il faut pouvoir déterminer quelle est la pose, quelle est l'orientation, quels sont les mouvements, les vitesses relatives de l'objet, pour pouvoir après choisir une approche et effectuer une capture de l'objet en orbite dans un environnement qui a pas de gravité, qu'on est en microgravité et où il n'y a pas de friction. Ça veut dire le moindre contact avec l'objet génère des mouvements d'une part et d'autre et peut le mettre dans des rotations qui peuvent rendre la capture difficile.
Et vous comptez en récupérer combien ?
Alors aujourd'hui, la première mission, c'est récupérer déjà un objet. Il y a vraiment beaucoup de complexité et pas mal de développement technologique qu'il faut réaliser pour pouvoir déjà éliminer un objet d'orbite. Mais l'objectif à terme, c'est de développer une plateforme réutilisable qui est capable de mener des missions et d'éliminer plus d'un objet ou d'effectuer plus d'un service en orbite afin de réduire finalement le coût récurrent de ce genre d'opération. À l'heure actuelle, il y a, si on compte les objets complets, il y a à peu près 2000 corps de fusée en orbite et plus de 3000 satellites non fonctionnels en orbite.
Ce sont des déchets, tout ça. C'est des déchets. Ça fait à peu près 5000 déchets, entre guillemets, hein, c'est ça.
Donc ça, c'est que les objets entiers. Donc on ne parle pas ici de fragments qui résultent d'une explosion, d'une collision entre des objets. Donc ça, c'est vraiment des satellites complets ou des corps de fusée qui sont restés en orbite et qui sont pas contrôlables. Et chaque année, durant les 20 dernières années, en moyenne, on en a ajouté 74.
Bien, vous allez rester en ligne avec nous, Luc Piguet, si vous le voulez bien. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu de quoi on parle exactement quand on dit un déchet, Xavier Pascaud. Parce que là, on a vu qu'il y avait des satellites, des bouts de satellites.
Voilà, c'est ça. Eh bien, finalement... À partir du moment où un satellite n'est plus contrôlé et est arrivé en fin de vie et mort, il devient un débris incontrôlable. Alors après, ces débris peuvent avoir différentes caractéristiques. Ça peut être un gros objet, comme on vient de nous en parler, mais ça peut être aussi des objets de quelques centimètres qui ont la même vitesse et qui vont pouvoir détruire un satellite, possiblement. C'est-à-dire qu'il faut que sur l'ensemble de cette gamme de débris possibles, de déchets, on ait la capacité de les voir, on ait la capacité de les répertorier et éventuellement d'agir dessus ou de les éviter. Et ça, c'est très compliqué.
Parce qu'un petit déchet, donc Isabelle Sourbès-Verger, peut faire énormément de dégâts. Il peut détruire un satellite.
Alors, il peut surtout détruire une antenne, il peut abîmer un panneau solaire et donc à partir de là, rendre le satellite inutilisable. C'est surtout ça le problème. Maintenant, quand même, l'espace, c'est vaste. C'est un peu ce qu'évoquait Thomas Pesquet. Chaque orbite se caractérise par 6 paramètres. Donc, c'est pas des routes, c'est pas des autoroutes. On a un petit peu de mal à imaginer, si vous voulez, qu'on fonctionne dans 3 dimensions et avec en plus un paramètre temps. Donc, le problème du débris, c'est classique, c'est qu'effectivement, une fois qu'il est là, il met très longtemps à disparaître naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, finit par être attiré par l'attraction terrestre et à brûler dans l'atmosphère.
Mais se désintégrer.
Quand vous parliez des fameuses constellations du début et de nos milliardaires américains, Elon Musk avait demandé une autorisation initialement pour 14 000 satellites et maintenant on en est passé à plusieurs dizaines de milliers. Alors est-ce qu'il aura l'autorisation ? Probablement. Mais en tout cas, si vous gardiez l'ensemble des satellites lancés depuis 1957, on est à 10 000 satellites. Donc de 57 pendant 63 ans, vous avez 10 000 satellites et d'un seul coup, vous avez une seule constellation qui est, mettons, à 20 000 satellites. Vous imaginez bien que là, on est en train de changer complètement de dimension. D'où, d'ailleurs, cette prise en compte. Et dans les constellations, Elon Musk prend en charge le fait de faire réentrer ses satellites dans l'atmosphère. Ce qui fait un coût supplémentaire, mais il faudra quand même voir comment cette trajectoire sera contrôlée. Et ça nous amènera à réfléchir à un sujet très, très important qui est celui de la surveillance de l'espace.
Oui.
C'est-à-dire comment, finalement, on va pouvoir faire des règles de trafic, de circulation dans l'espace.
De circulation et puis de nettoyage aussi, qui va nettoyer l'espace.
Oui, mais même indépendamment de nettoyage, quelle va être l'instance internationale qui va fixer ces règles, qui va les faire respecter, comment on sera sanctionné, etc., etc. Donc là, on rentre dans une toute autre histoire du spatial qui est liée à ce changement de niveau d'occupation.
Oui, Philippe Baptiste, vous êtes d'accord avec ça. Il va falloir légiférer, hein, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir.
Alors, après, il faut comprendre, comme vous le disiez très bien, il faut comprendre que l'avenir probablement pour régler cette question, c'est avant tout de concevoir des objets qui sont éco-conçus. Enfin, j'invente le terme, mais c'est-à-dire qui vont se désorbiter eux-mêmes proprement. Et c'est ça sans doute une des clés en fait pour limiter les questions de pollution demain de l'espace. C'est simplement de réfléchir avant même de lancer à des objets, des étages de fusées ou des satellites qui vont être capables de développer un mécanisme leur permettre de se désorbiter.
Je comprends, mais quand ils se désorbitent, donc ils traversent l'atmosphère, ils freinent, ils chauffent, ils explosent, mais ils fondent complètement. Il n'y a pas des risques qu'il y ait des petits morceaux qui retombent sur Terre?
Alors ça dépend énormément. Il peut y avoir effectivement pour des alliages qui fondent à très haute température, pour des morceaux de réservoir par exemple, on peut avoir effectivement des morceaux qui retombent sur Terre. C'est déjà arrivé, ça arrive.
On entendait ce matin sur Europe 1 le reportage de Pierre Herbulot qui nous parlait d'un bout de fusée chinoise qui risque de s'écraser sur la Terre dans les prochains jours. 21 tonnes de métal en chute libre, 30 mètres de long, 5 de large. Elle devrait entrer dans l'atmosphère lundi prochain. Quelques morceaux pourraient tomber sur Terre. Vous confirmez ? Isabelle Sauvès-Verger.
Tous les étages de lanceurs reviennent sur Terre et heureusement, il y a plus de mer que de terre immergée sur la planète. Donc, en général, ils tombent dans le Pacifique et voilà. Mais c'est vrai que les gros étages de fusée, c'est ce que je crois vous alliez dire, on met de plus en plus les industriels et les fabricants de fusées, on leur impose de plus en plus de contraintes pour que justement ces choses-là soient prises en compte. Et il me semble que là, la France et l'Europe ont été assez précurseurs. Dans ce domaine.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Philippe Baptiste, Isabelle Sauvès-Verger, Xavier Pascaud et Luc Piguet qui était en ligne avec nous depuis la Suisse. Luc Piguet de ClearSpace. Merci beaucoup de nous avoir aidés à comprendre mieux ce soir ce monde qui change. Vous savez qu'on aime ça sur Europe 1. On salue Thomas Pesquet qui nous permet à tous de nous intéresser encore de plus près à cet univers fascinant. Merci.
Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, on ouvre les archives d'Europe 1. 7 mai 1995, Jacques Chirac est élu à l'Élysée. On reviendra sur le slogan détourné et devenu culte de sa campagne présidentielle. Manger des pommes. A tout de suite. Dans le Club des idées, on va maintenant plonger comme chaque soir dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité. Ça s'appelle Le Jour Où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Bien ce week-end.
Bonsoir Victor Chabert.
Bonsoir Isabelle.
Alors avec vous, on va revenir sur l'élection de Jacques Chirac. C'était le 7 mai 1995. Il devient président de la République. Et de cette campagne, il y a un slogan qu'on va lui attribuer. Manger des pommes, un slogan qui le suivra jusqu'à la fin de sa vie.
Oui, et cette saga des pommes commence avec un livre. Un essai traditionnel de campagne. Dedans, Jacques Chirac détaille son programme. Et surtout, il tente de renouer le lien avec les Français. Début 1995, il est loin derrière dans les sondages. Il n'y a rien d'écrit sur les pommes dans ce livre, pas un mot. Mais sur la couverture, en haut à gauche, il y a un dessin, un petit pommier. Le 9 janvier 1995, en interview, Alain Duhamel lui demande pourquoi ce choix, si c'est sa contribution à l'écologie. Jacques Chirac répond.
C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Et ensuite, je trouvais que c'était joli. Voilà, c'est comme tout, ça ne va pas plus
comme
loin.
Ça. Oui, c'est un geste spontané. Loin.
J'aime bien le cidre aussi. Chez moi, en Corrèze, il y a des pommiers qui sont des pommiers qui sont de très grande qualité, il faut bien le reconnaître. Et on fait des pommes pour faire un petit cidre qui n'a pas non plus de grandes prétentions, mais que j'aime bien. Alors ça me rappelle un peu cela.
Et cette petite sortie va faire mouche dans l'opinion publique et les médias. Quelques jours plus tard, Bruno Mazur au JT d'Antenne 2 revient à la charge sur le pommier. Réponse de Chirac, la pomme est un fruit sympathique. Mais ceux qui vont vraiment associer le futur président à ce fruit, ce sont les guignols de l'info. À chaque fois que sa marionnette apparaît, c'est avec ce slogan.
Compagnons, mangez des pommes! Putain, j'ai une patate en ce moment, moi. Je l'ai bouffé tous, j'ai la niaque, inouï.
Et alors, Victor Jacques Chirac commence à remonter dans les sondages et son état-major sent bien qu'effectivement, eh bien, quelque chose se passe autour de la pomme. Hein.
Si bien qu'ils vont en faire un emblème de campagne. Le petit pommier du livre va apparaître sur les affiches. Ils vont distribuer des pommes en meeting, rendant fous les services de sécurité qui ont peur qu'on les lui lance en plein visage. On voit Alain Juppé croquer une pomme et François Baroin défendre un emblème du terroir pour un homme de terrain. Même ses opposants vont l'utiliser, comme le socialiste Michel Rocard, Europe 1, le suit en meeting le 22 mars 1995.
Mais pensez à eux avec un peu de commisération. Pardonnez leur écart de conduite. Ils sont prêts en plus à se gaver de têtes de veau, vous avez vu ça? Et à manger des pommes sans les éplucher, et même avec la queue et les pépins.
Et une fois élu président de la République, les pommes vont continuer de suivre Jacques Chirac, même après ses 12 ans de mandat.
Et de retour au Salon de l'Agriculture en 2009, deux ans après avoir quitté l'Élysée, il est accueilli en rockstar. Tout le monde se souvient des heures interminables du président corrézien à tâter les vaches. Eh bien, les exposants continuent de lui amener des pommes. Yael Gosse pour Europe 1 l'accompagne.
Il goûte au foie gras, enchaîne sur le jambon avant d'avaler une bière.
C'est excellent. Moi, j'ai toujours été un buveur de bière.
Après la bière, les pommes, évidemment le fruit préféré de Jacques Chirac.
C'est un merveilleux fruit et on en fait d'excellentes dans nos régions, les meilleures du monde.
Le fruit préféré des Français va suivre Jacques Chirac jusqu'à la fin. Il meurt le 26 septembre 2019. Quelques jours plus tard, Marion Gauthier, journaliste d'Europe 1, se rend sur sa tombe au cimetière Montparnasse. Elle interroge les soutiens de l'ancien président qui viennent lui rendre hommage.
Devant la stèle de marbre blanc, des fleurs multicolores, des mots de remerciement et des pommes ont été déposées. Michel, lui, est ramené en 1995.
Tiens, des pommes. Et puis après, je dis oui, manger des pommes. Il disait que c'est trop sympa que les gens y pensent.
Et les gens y pensent encore. Deux ans après sa disparition, sur sa tombe, il y a toujours une grosse pomme en argent, entourée de plus petites, posée régulièrement par les Français.
Merci beaucoup Victor Chabert. Vous aimez les pommes ?
Oui.
Moi j'adore ça. Merci Victor.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel de l'actu avec Romain Nocquet. Puis place à la musique avec vous, Émilie Mazoyer. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Isabelle.
Alors, quel programme ce soir ?
Alors, j'aime aussi les pommes, je tenais à le dire. J'ai l'impression que ce soir, on partage beaucoup nos intimités culinaires. Et ce soir, j'ai invité un jeune duo français qui s'appelle Vénus Vénère, qui sort son deuxième EP et qu'on avait découvert avec une chanson qui va vous toucher autant que moi, Isabelle, puisqu'elle s'appelle Blonde. Vous allez voir, ce sont des paroles juste comme on aime.
Quand tu me prends pour une serpillère, je fous de la javel dans le fond de ton verre. Si tu me fais camper au fourneau, j'éternue dans ton apéro.
Voilà,
effectivement. Allez, on adore.
C'est pop, c'est frais, ça s'appelle Vénus Vénère et ce sont nos invités ce soir dans Musique.
Belle émission à vous, Émilie.
Merci, Isabelle.
Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouverai lundi dès 18h aux côtés de Julien Bugier. D'ici là, on écoute Le Monde Changer, bien sûr.